KCIUT 89.5 FM, the station that brings you the best Latin music, new and old, on Ultra Latino with DJ Chelly.
KCIUT 89.5 FM, the sound of your city.
The views and opinions expressed on the following program are those of the producers and/or the persons appearing on the program, and do not necessarily reflect the views and opinions of CIUT FM.
CIUT 89.5, Toronto.
Want to learn French? Parlez-vous français? Join us every Sunday from 11 a.m. to 1 p.m. on CIUT 89.5 FM or on the internet at CIUT.FM or live from our studio. Popori Show targets student listeners who want to explore and travel through the Francophone world. Each Sunday, our show includes French lessons, news, reports from across the continent, as well as international news flash about Africa, Europe, the Caribbean, and the Indian Ocean Islands. And features music charts and social issues around the world. Lively, upbeat, provocative, and on target. Popori Show, every Sunday from 11 a.m. to 1 p.m. In partnership with Radio France International, the French Studies Department, University of Toronto. Our email address, pot.pourri@simpatico.ca.
Nous sommes tous différents. Nous sommes de générations différentes, de cultures différentes et de milieux sociaux différents. Certains d'entre nous occupent des postes d'influence et certains d'entre nous passent leur vie à servir les autres. Quelques-uns d'entre nous aspirent à réussir dans la vie et d'autres à réussir sa vie. Nous avons tous notre unicité, notre particularité, notre personnalité. Nous ne vivons pas les mêmes histoires et ne menons pas tous les mêmes combats. Nous pouvons rester dans l'ombre et subir la vie. Mais nous pouvons aussi puiser en nous la force de combattre pour faire changer les choses.
Nos efforts collectifs contribuent à arrêter la propagation de la COVID-19. À mesure que les commerces rouvrent, respectez l'écart sanitaire et portez un couvre-visage quand c'est difficile de respecter l'écart. Pour en savoir plus, consultez ontario.ca/nouveau coronavirus.
RFI, la radio d'actualité internationale du groupe France Média Monde, diffusée en français et en 13 autres langues. 480 journalistes à Paris, 42 nationalités, 400 correspondants sur les 5 continents. Une présence mondiale sur 156 fréquences FM, en ondes moyennes, en ondes courtes, sur le câble, le satellite et via plus de 1400 radios partenaires. Plus de 40 millions d'auditeurs chaque semaine. Et ils sont de plus en plus nombreux, avec une audience en progression de 17% en 4 ans. RFI, c'est aussi un succès sur le numérique. Chaque mois, ce sont plus de 15 millions de visites sur RFI.fr, dont 40% en langues étrangères. Des offres thématiques sur l'Afrique, la musique ou encore sur les savoirs et l'apprentissage du français à partir de 20 langues étrangères. Une communauté de plus de 21 millions d'abonnés sur Twitter et Facebook qui font d'elle la première radio généraliste française sur les réseaux sociaux. Vous êtes toujours plus nombreux à nous faire confiance.
Chaque dimanche, soyez de la fête avec RFI, Popori sur CUT 89,5 FM. Écoutez les voix du monde sur votre fréquence. Quelles sont les valeurs de la francophonie? Quels sont les enjeux de la francophonie? Qui sont les francophones de la planète? Qui sont les francophones de Toronto, de l'Ontario, du Canada? Qu'en pensent les jeunes, les femmes, les LGBT, les immigrants? Chaque dimanche, je vous invite à écouter, participer à nos jeux concours. Votre magazine est avec vous depuis plus de 33 ans sur CUT 89,5 FM. Popori Show, sur votre fréquence, tout au long de l'année. La radio, comme je l'aime.
Madame, how would you like your baguette? With butter or marmalade?
Les médias publics, ce sont les vôtres. Alors quoi de plus normal que d'imaginer leur avenir avec vous? En 2018 déjà, vous étiez nombreux à nous répondre. Alors en cette année si particulière, qu'attendez-vous de vos médias publics? Info, éducation, divertissement, culture, sur nos réseaux de proximité ou internationaux, venez proposer vos idées sur nosmediapublics.fr. Parce que rien ne se fait sans vous, inventons aujourd'hui ensemble les médias de demain.
C'est un, je pense que c'est une émission qui est importante et puis qui donne vraiment une voix importante à des gens qui font des choses extraordinaires. Donc, bravo. Et puis, du coup...
Du 16 au 22 novembre, CUT FM revient avec sa campagne de dons. Malgré la saison automnale très particulière, cette année, la campagne MTA Radio bat son plein et compte sur vous pour garder l'antenne. Faites un don à notre émission en visitant le site web cut.fm. Aidez-nous à garder Potpourri Show, la seule et l'unique émission en français sur les ondes de la radio du campus de l'Université de Toronto. Du 16 au 22 novembre, la collecte de dons automnale MTA Radio bat son plein. Allez, on vous attend en grand nombre. Faites un don maintenant en visitant cut.fm. Cliquez simplement sur le bouton « Faire un don » et aidez-nous à garder le son de votre ville en ondes. Depuis 1966, CUTFM est à vos côtés. Aujourd'hui, plus que jamais, la radio compte sur vous, compte sur toi. La radio vous lance un appel à faire un don du 16 au 22 novembre. Aime ta radio et fais un don en ligne en toute sécurité en visitant le site web cut.fm. CUTFM, la radio comme je l'aime. Connaissez-vous le nom du nouveau président des États-Unis? Dimanche 8 novembre 2020, bonjour et bienvenue à Potpourri Show, votre magazine de la francophonie, toujours en mode virtuel. Montage, mixage, DJ Devera à Toronto, production, animation, Eric Kader, en direct de Plougastel à Daouglas, Bretagne, sur CUT 89,5 FM. Pour télécharger nos émissions, c'est simple, popourishow.com. Nous saluons les nombreux auditeurs qui nous suivent de Montréal, Saint-Denis, l'île de la Réunion, la ville du Québec. D'ailleurs, nos salutations chaleureuses et nos bonnes pensées à tous ceux et celles qui sont affectés par ce meurtre crapuleux qui s'est déroulé à Québec récemment. Et nous avons des amis de Port-au-Prince, Haïti, Rennes, Toulouse, Paris, Antananarivo, Madagascar, Dakar, Yaoundé au Cameroun, Yamoussoukro en Côte d'Ivoire. Bonjour à tous ceux et celles qui nous écoutent dans la région de Toronto, bien sûr. L'émission de ce dimanche est réalisée grâce à la précieuse collaboration de plusieurs correspondants et partenaires au Canada et à l'étranger. Et aujourd'hui, nous sommes extrêmement chanceux et très reconnaissants envers nos invités et partenaires. Nous voguerons avec des passionnés du monde du 7e art. Fabienne Collat, fondatrice de la fondation Fabienne Collat et grande militante pour la diversité dans les médias au Québec et au Canada, vient de signer un partenariat majeur avec Téléfilm Canada qui se joint à Netflix, la Banque nationale et le Fonds des médias du Canada. Ce partenariat aidera au programme de mentorat Être noir au Canada, un programme géré par la fondation Fabienne Collat. Entretien exclusif avec Fabienne Collat, fondatrice de cette fondation, vers 11h35. Vers 12h35, 12h40, nous accueillerons avec immense plaisir notre grande amie de toujours, partenaire, Marcel Lynn, la fondatrice de Ciné Franco. Contre toutes attentes, et ce malgré la pandémie, le Festival international du film de Ciné Franco innove et nous revient du 20 au 28 novembre avec une très belle programmation en ligne et dans tout le Canada. Devenez membre de Potpourri Show, contribuez à notre campagne d'adhésion d'automne 2020 et courez la chance de gagner un passeport de film de Ciné Franco. Choisissez vos films en visitant le site web cinefranco.com. Le 28 octobre dernier, la francophonie a perdu un immense linguiste et lexicographe, Alain Rey. Il était auteur, l'un des pères fondateurs du dictionnaire Le Robert, chroniqueur à France Inter. Les 200 drôles de mots qui ont changé nos vies depuis 50 ans Une émission à ne pas rater, vers midi, collaboration spéciale Radio France Internationale. Pour terminer le show en beauté, petit détour à Montréal, où s'est tenu dimanche soir dernier le 42e gala de la disque, un gala réalisé dans des conditions les plus bizarres, à cause de la pandémie, bien sûr. Plusieurs artistes en sont en partie, d'ailleurs, avec Adé Félix. Pour notre part, nous recevrons les Cowboys Fringants, groupe très connu au Québec, en France, en Belgique. Ils ont gagné deux Félix, un autre qui vient de célébrer ses 50 ans de carrière, Robert Charlebois, très connu aussi en Europe, auteur, compositeur, interprète. Il a été récompensé pour son spectacle Robert en Charlebois Scope. Les buzz de la semaine.
This is a major fraud in our nation. We want the law to be used in a proper manner. So we'll be going to the U.S. Supreme Court. We want all voting to stop. We don't want them to find any ballots at 4 o'clock in the morning and add them to the list. Okay? It's a very sad moment. To me, this is a very sad moment. And we will win this, and we, as far as I'm concerned, we already have won it. So I just want to thank you.
Et oui, mardi 3 novembre 2020, le monde entier tenu en haleine en attendant les résultats finaux de la présidentielle américaine. Alors que, selon les derniers résultats, Joe Biden semble être le candidat favori d'une petite fraction de l'électorat américain. Pour sa part, le président américain a évoqué une fraude électorale sans aucune preuve. Donc, la grande question qu'on se pose, est-ce que le président américain peut lancer une procédure en cours? Eh oui, Trump peut-il vraiment saisir la Cour suprême? C'est la grande question. Déconfiture des démocrates au Sénat, et les démocrates ont perdu d'ailleurs des plumes à la Chambre des représentants. Bref, une Amérique divisée, fracturée. Reportage de nos envoyés spéciaux et correspondants aux États-Unis avec RFI, TV5 Monde, France 24, dimanche prochain à ne pas rater, ainsi que l'analyse et la chronique de notre correspondant spécial, Maître Peter Biro, à ne pas rater. Parmi les autres titres et aussi buzz qui ont attiré notre attention cette semaine, Frédéric Boiron, notre collaborateur consultant pour les relations raciales à la police de Montréal. Il est aussi sociologue québécois d'origine haïtienne et auteur. Il vient de publier un nouveau livre qui fait le buzz en ce moment dans la francophonie et surtout au Québec, « Inconduite, tweets et autres bullshit d'une élite en faillite ». C'est lui qui le dit. C'est le troisième livre de cet auteur et notre correspondant sur l'état de la démocratie dans le monde. Je vous invite à visiter son site frédéricboiron.com et merci infiniment pour la copie envoyée à la rédaction. Il sera dans la marmite de Popourri très prochainement. Sur la scène internationale, Côte d'Ivoire, à l'issue du scrutin qui s'est déroulé sous haute tension, Alassane Ouattara a été déclaré vainqueur de l'élection présidentielle du 31 octobre dernier. Ce troisième mandat, fortement contesté par l'opposition qui le juge illégal, fait peser sur les prochaines semaines la menace de violence. Les auditeurs ivoiriens de la région de Toronto sous le qui-vive. Le racisme se porte bien, merci, dans certaines écoles au Canada et une polémique enfle en ce moment dans une école à Montréal-Nord. Les Béliers solidaires, un nouveau groupe qui a été créé récemment sur Facebook. Ce sont des élèves anciens et actuels de l'école secondaire Henri Bourassa à Montréal. Et ils ont fondé ce groupe pour démanteler les mécanismes d'oppression dans leur communauté. Le groupe soutient que sa lutte est antiraciste, féministe, queer et intersectionnelle. Suite à leur ténacité et pression sur le centre de service scolaire de la Pointe de Lille, l'enseignant visé par des allégations de racisme a été suspendu. Une enquête a été déclenchée par le service des ressources humaines à la suite de la diffusion de la vidéo filmée dans sa classe par un élève. Une affaire à suivre. En Ontario, la pandémie a des conséquences énormes sur certaines communautés, notamment les personnes LGBTQ et les personnes racialisées. Selon une étude de RIMAX, les Canadiens quittent les grandes villes comme Toronto pour les plus petites villes pendant la COVID-19, car les logements moins chers ont un prix élevé pour certaines familles racialisées. La même étude démontre que les personnes de couleur disent qu'elles ont été la cible du racisme dans leur nouvelle communauté et qu'elles se sentent importunées et indésirables. Toujours en Ontario, une vidéo dans laquelle le premier ministre de l'Ontario, Doug Ford, envoie des vœux d'anniversaire à Charles McGettie, pasteur évangélique conservateur accusé d'homophobie, de l'islamophobie, fait le buzz. Eh oui, l'opposition a saisi cette occasion et a fait de cette histoire son nouveau cheval de bataille. Et enfin, retrouvez toutes les informations, liens, activités de nos partenaires, et particulièrement sur la semaine de l'immigration, les mises à jour sur la COVID-19 et les rendez-vous de tous nos partenaires. Allez sur notre site popourishow.com. Selon un récent sondage, la crise sanitaire a un impact direct sur près de 70% de Canadiens. La question liée à la santé mentale, sujet souvent tabou, est débattue dans des médias et les milieux communautaires ces temps-ci. Et je vous invite à visiter le site web de notre partenaire en santé mentale, Noir et Psy. Vous pouvez là y retrouver des liens sur notre site popourishow.com. La deuxième vague de cette crise sanitaire affecte de plus en plus plusieurs provinces canadiennes. Des milliers de Canadiens, d'entrepreneurs, de petites et moyennes entreprises en sont très affectés. On parle d'un allègement des restrictions d'ici le 12 novembre prochain pour la région de Toronto. Chrystia Freeland, la nouvelle ministre des Finances, fait face à des décisions extrêmement difficiles. Et justement, aujourd'hui, la thématique de la chronique de Peter Bureau, aide financière durant la pandémie, une obligation morale et économique, selon la ministre. Mais au juste, quel est l'engagement du Canada? Analyse de notre correspondant spécial, auteur, professeur et avocat, Peter Bureau. Bonjour, maître Peter Bureau.
Dans son allocution la semaine dernière au Toronto Global Forum, une conférence annuelle des grandes entreprises et du gouvernement, ministre des Finances, madame Chrystia Freeland a offert une défense éclatante de garder ses options ouvertes pour régner dans les dépenses, contrôler le déficit et finalement équilibrer le budget. Après avoir porté le déficit à environ 400 milliards de dollars, elle a clairement indiqué que le gouvernement ne serait pas pressé de le réduire. Nous avons moins de dettes par rapport au PIB que certains autres pays. Les taux d'intérêt sont à des niveaux historiquement bas. A dit-elle, aucun des facteurs à l'origine de la crise budgétaire des années 90 n'est vrai aujourd'hui. Ensuite, les taux d'intérêt ont, par contre, dépassé le taux de croissance de l'économie, et ce qui implique une ratio dette à PIB en constante augmentation. Alors qu'aujourd'hui, la croissance dépasse les taux d'intérêt, a dit le ministre. Mais les taux d'intérêt ne resteront quand même pas aussi bas pour toujours, ni même pour longtemps. La seule raison pour laquelle les taux d'intérêt sont restés si bas face à une émission aussi massive de dette publique, c'est parce que la Banque du Canada en a acheté un pourcentage si élevé. En fait, les dépenses de relance de la pandémie ont été en grande partie financés par l'achat d'obligations d'État par la Banque du Canada. Mais à un moment donné, cette dette devra être vendue et en fin de compte remboursée grâce au coffre du gouvernement, ce qui, en fin de compte, sera probablement accompli par le refinancement de la dette publique plutôt que par la croissance économique. Comme a expliqué récemment Andrew Coyne, la croissance économique de l'économie s'est produite à près de 4% par an en termes réels de 1994 à 1999, suffisamment pour produire une augmentation de 35% des recettes fédérales. Mais aujourd'hui, même avant la pandémie, on prévoyait que l'économie croîtrait à peine un tiers de ce rythme, soit environ 1,4%. Alors, Quel est le plan du gouvernement pour apprivoiser le lion des déficits incontrôlables et une augmentation inévitable de notre ratio dette à PIB? S'ils le savent, ils ne disent pas. Mais dans une démocratie qui a été qualifiée de refuge dans la tempête, du recul démocratique ailleurs dans tout l'Occident, ce n'est pas un signe prometteur. Et s'ils ne savent pas, c'est encore moins prometteur. Madame la ministre, un peu moins de tournoyant et beaucoup plus de responsabilité, s'il vous plaît. Peter Biro, correspondant spécial, le Potpourri Show, CIUT FM.
Et à tous. Je m'appelle Marcel Lynn, je suis la directrice générale et artistique de Ciné Franco, le festival du film international francophone à Toronto. Au nom de toute l'équipe, je vous salue de tout mon cœur. Vous nous manquez, fidèles, cinéphiles et amoureux du cinéma. Alors, cette 23e édition du grand public, ce sera notre geste d'amour envers vous. Du 20 novembre au 28 novembre, nous vous proposons 17 longs métrages et 17 courts métrages en ligne accessibles pour tout le Canada. Notre programmation englobe la diversité francophone internationale, incluant bien sûr la France, la Belgique, la Suisse, mais aussi des pays comme le Liban, avec le film 1982 de Walid Mouanès, le Sénégal avec Le père de Nafi de Mamadou Dia, ou encore le Maroc avec Ta mère de Touria Benzari. Le Rwanda et le Burundi sont au cœur d'un film d'Éric Barbier qui s'appelle Petit pays dans les années fatidiques de 1990. Et pour rester justement dans l'histoire, nous vous proposons également le film De Gaulle de Gabriel Le Beaumain avec Lambert Wilson et Isabelle Le Carré. Un aspect inconnu et intime en fait de la vie familiale du grand général avant l'appel à la résistance du 18 juin 1940. Alors, les histoires d'amour et de femmes abondent dans le registre comique de Ciné Franco. Énorme, de Sophie Le Tourneur à l'humour débridé avec Marina Foïs et Jonathan Cohen. Vous avez aussi La bonne épouse de Martin Provost avec une Juliette Binoche en pleine forme. La belle époque émouvant et tendre de Nicolas Bedos avec Daniel Auteuil. Nous avons également Belle fille, un film de Méliane Margacci, hilarant, avec Alexandra Lamy et Miu Miu. Sous les rires de certaines comédies se cachent des observations sociales et politiques assez judicieuses. Par exemple, le film Québec City de Joshua Demers ou encore Tout simplement Noir et avec Jean-Pascal Zadi qui vous fera mourir de rire contre le racisme. Des drames familiaux bouleversants dans un milieu rural, comme le thriller glaçant de Nicolas Boukrieff, Trois jours et une vie, et Au nom de la terre, émouvant et poignant, d'Édouard Bergeon, précédé du court-métrage de Nicolas Fay, La clé du sol. Lola vers la mer, le film sur la transidentité de Laurent Micheli avec le magistral Benoît Magimel et l'actrice transgenre toute nouvelle Mia Bolaerts. Ce film vous plongera dans un conflit déchirant entre un père et son ado. Le cinéma québécois aussi nous offre une fenêtre dramatique formidable. Le touchant Vacarme de Nigan Trudel, Nadia, Butterfly de Pascal Plante que nous aimons beaucoup, le sublime Mont Foster de Louis Godbout. les courts-métrages avec Martin Villeneuve, qui vous laissera un souvenir indélébile avec son incarnation d'une de ses grand-mères, Emelda, avec Robert Lepage et Ginette Renault. L'Ontario présente, Ontario créatif, je devrais dire, présente un programme de 17 courts-métrages, principalement de l'Ontario francophone et du Nouveau-Brunswick. Ne manquez pas non plus nos conversations qui accompagnent certains de nos films. Alors, vous trouverez tous les renseignements sur le site web cinéfranco, alors cinéfranco.com. Je répète, cinéfranco.com, et également sur nos pages Facebook, Twitter, Instagram, YouTube. Mais je laisse pour la fin la meilleure, je dirais la meilleure nouvelle, c'est que nous avons acquis un nouveau commanditaire, Platine Hampton Security, qui va être notre présentateur. Merci infiniment, Home. Alors, c'est Hampton Securities. Et aussi, bien sûr, ce festival ne serait absolument pas possible sans le soutien financier de Power Corporation du Canada, de Téléfilm Canada, de l'École internationale du Canada, TFS, de la Société des jeux et loteries de l'Ontario et de l'Ontario Créatif. Merci à tous nos commanditaires, à tous nos partenaires. Je répète, rendez-vous à cinéfranco.com. Merci pour votre attention et bon cinéma.
RFI, toute la diversité du monde.
CIUT 89.5, Toronto.
Vous vivez une crise, vous avez besoin d'aide, mais vous ne savez pas où vous adresser? Notre partenaire Yann, la thérapeute du cabinet Noir et Psy à Toronto, est là pour vous aider. Psychologue de formation spécialisée en approche interculturelle, Yann, la thérapeute, a une approche qui prend en compte l'aspect de la diversité culturelle, la langue et la compréhension des difficultés médicales de ses patients. Alors qu'on constate que la diversité culturelle et la langue française posent de vrais défis pour des cliniciens en santé mentale, la spécialiste et psychologue Yann la Thérapeute a déjà fait ses preuves. Yann la Thérapeute possède une expertise dans le traitement des problèmes complexes de santé mentale s'ajoutant aux difficultés d'adaptation. N'attendez plus, découvrez la clé du bien-être en toute discrétion. Abonnez-vous à ses blogs, à sa page Facebook, Noir et Psy avec Yann la Thérapeute dans CUT 89,5 FM Popourri Show. Noir et Psy, la santé mentale sans tabou. Par téléphone, le 437-775-8767 ou visitez le site web www.noirepsy.org. Soyez intelligent. Contactez Noir et Psy, Yann la Thérapeute. Aidez-vous maintenant. Noir et Psy, en partenariat avec Popourri Show et CUT 89,5 FM, la radio comme je l'aime.
Avec la nouvelle application Apprendre le français avec TV5Monde, apprenez le français où vous voulez, quand vous voulez. 3000 exercices variés et amusants à partir de vidéos directement issues de nos programmes pour améliorer votre compréhension orale du français. Débutant ou confirmé, on vous guide pas à pas avec des tas d'astuces et de conseils. Avec l'appli Apprendre le français avec TV5Monde, le français, c'est simple comme bonjour. Disponible gratuitement sur iOS et Android.
Chaque dimanche, soyez de la fête avec Popourri Show et RFI. Des entretiens musclés, des rendez-vous littéraires et culturels. Écoutez les voix du monde sur votre fréquence. Quelles sont les valeurs de la francophonie? Quels sont les enjeux de la francophonie? Qui sont les francophones de la planète? Qui sont les francophones de Toronto, de l'Ontario, du Canada? Qu'en pensent les jeunes, les femmes, les LGBT, les immigrants? 50 ans après sa création, comment se porte l'organisation de la francophonie internationale? Ici Eric Kader, je vous invite
à Pot Pourri Show, le magazine de la francophonie. L'émission phare sur CUT-FM, chaque dimanche de 11h à 13h, en partenariat avec le Centre de Recherche en Éducation Franco-Ontarienne de la Faculté d'Éducation de l'Université de Toronto, le CREFO, le Département d'études langagières, campus de Mississauga, Université de Toronto, la Chaire de Recherche du Canada en études des minorités, l'Université de Waterloo, les éditions Prises de Parole, EducNation Consulting Inc., Noir et Psy, Radio France Internationale, TV5 Monde, France 24. Écoutez, participez, devenez chroniqueur ou bénévole. Joignez-vous à l'équipe de Pot Pourri Show en nous envoyant un message à potpourri@cut.fm ou visitez notre site web potpourrishow.com. Pot Pourri Show, plus de 34 ans déjà sur CUT FM, la radio comme je l'aime.
Madame, how would you like your baguette with butter or marmalade?
Et oui, vous écoutez Pot Pourri Show, le magazine de la francophonie qui vous mène jusqu'au bout du monde. C'est bien sûr sur CUT 89,5 FM. Le 2 novembre a eu lieu le lancement en ligne de la Semaine nationale de l'immigration francophone. Cette 8e édition met l'emphase sur les discriminations raciales envers les Noirs. Si vous avez une activité, une initiative, veuillez nous contacter immédiatement. Popourri@cut.fm. CUTFM a plus que jamais besoin de votre soutien. Et oui, surtout en ces temps de pandémie, nous avons besoin d'un petit coup de pouce lors de notre campagne de levée de fonds de ce mois-ci. Et si vous aimez nos émissions, la contribution de nos bénévoles, de nos invités, de nos techniciens, les magazines, les thèmes et les sujets traités, faites-nous signe en nous écrivant à popourri@cut.fm ou visitez www.cut.fm. Faites un don, devenez partenaire de votre émission, la seule, l'unique émission en langue française depuis 34 ans bientôt. Et vous pouvez faire un don en toute sécurité sur www.cut.fm. Merci. Salomon, belle Salomon. Les jeunes cinéastes noirs canadiens, des futurs génies en herbe, auront bientôt un soutien de mentorat. Téléfilm Canada vient d'annoncer un partenariat majeur avec un des programmes de la Fondation Fabienne Collas à Montréal. Téléfilm Canada se joint ainsi à Netflix, la Banque nationale et le Fonds des médias du Canada qui ont récemment annoncé devenir un partenaire majeur d'être noir. C'est un programme de mentorat de la Fondation Fabienne Collas de Montréal. Pour Téléfilm Canada, cette initiative coïncide avec une prise de conscience de l'importance capitale pour l'industrie du cinéma et de l'audiovisuel d'offrir du soutien aux talents noirs. Vous pouvez avoir tous les liens nécessaires de ce projet sur notre site popourisseau.com. On en parle tout de suite avec la fondatrice de la Fondation, Fabienne Collas. Oui, je pourrais parler à Madame Fabienne Collas, s'il vous plaît.
Oui, c'est moi.
Bonjour, ici Eric Adet de CUT-FM. Vous allez bien?
Oui, ça va, ça va.
Oh, vous avez quelques minutes à m'accorder?
Absolument.
Alors, c'est un honneur de vous recevoir pour la première fois à notre antenne. Téléfilm Canada devient partenaire majeur de votre fondation, Fondation Fabienne Collas, et l'un de vos programmes intitulé « Être noir au Canada », c'est tout un exploit, bravo, félicitations, mais d'abord, permettez-moi de vous présenter à nos auditeurs au Canada et à l'étranger. Vous êtes née à Port-au-Prince, vous êtes actrice, réalisatrice, productrice, mannequin, Miss Haïti 2000, vous parlez couramment le créole, le français, l'anglais et l'espagnol. En 2003, vous avez gagné le ticket d'or de la meilleure actrice pour le film Barricade en Haïti, réalisé par Richard Sénécal. Les Québécois semblent vous connaître mieux, car vous avez joué dans plusieurs productions québécoises, tant sur le grand que le petit écran. Vous êtes parmi les lauréats du prix des meilleurs entrepreneurs moins de 40 ans au Canada, un prix qui récompense les entrepreneurs pour leur esprit visionnaire et novateur.
à la tête de la fondation Fabienne Cola, consacrée à la promotion du cinéma, de l'art, de la culture. Vous avez organisé de nombreux festivals. Puis-je vous qualifier comme une militante de la diversité culturelle? Et pourquoi le besoin de créer cette fondation, Fondation Fabienne Cola?
Ah mon Dieu, merci beaucoup pour cette belle présentation. Oui, effectivement, je pense que je suis d'abord et avant tout artiste, productrice, comme vous l'avez bien dit, entrepreneur et absolument militante pour la diversité. Cela fait 16 ans que nous travaillons là-dessus, nous poussons très fort et on a commencé à voir des résultats au fil des années à travers les différents festivals et initiatives que nous mettons sur pied, notamment les festivals du film black de Montréal, Toronto, Halifax, notamment le programme Relais des diversités à la Fondation Fabienne Cola qui chapeaute entre autres choses Être noir au Canada, qui chapeaute aussi le Black Market et tant d'autres. Donc pourquoi la fondation? Eh bien, je vais faire un petit retour en arrière rapidement. C'est que quand je suis arrivée ici au Canada, j'ai débarqué à Montréal en tant qu'immigrante permanente. Et là, j'étais déjà actrice très populaire de chez moi, mon pays d'origine. Donc je voulais continuer à travailler comme actrice. C'est-à-dire l'Amérique en plein Canada, quoi. Et du haut de ma jeune vingtaine, alors je me suis fait un portrait très rose de qu'est-ce que la réalité pouvait ressembler, à quoi la réalité pouvait ressembler, parce que j'avais vu à Montréal tout plein de gens de différentes couleurs qui parlaient avec différents accents, donc je pensais que tout ça se traduisait à la télévision et au cinéma. Eh bien, je m'étais trompée. Donc, c'était très difficile de trouver des rôles, c'était très difficile de trouver des auditions. Et à un moment donné, on a pensé que, bon, on va faire venir des films d'Haïti, pas seulement ceux dans lesquels j'ai joué, mais certains d'entre eux aussi. Et malheureusement, il n'y avait aucun festival qui voulait les passer. Et c'est là que, dans mon désespoir, ma frustration de ne pas pouvoir travailler, de ne pas pouvoir jouer, de pouvoir montrer ce que je pouvais faire en tant qu'actrice, et non plus sans avoir une plateforme pour même passer des films de mon pays d'origine ou même des films dans lesquels j'ai joué. Alors on a dit, ben, on doit créer des plateformes pour des gens qui me ressemblent et qui vivent ma situation. C'est-à-dire des gens qui sont sans plateforme, qui sont invisibles, ni vus ni entendus. Et c'est ainsi qu'on a recréé la Fondation Fabienne Cola qui existait déjà en Haïti, mais toutefois pour vraiment, créer des ponts, en fait, et pour la diversité et l'inclusion à l'écran.
Alors, j'ai raté ma carrière. J'aurais dû vous rencontrer, hein. On le sait que ça n'a pas été toujours rose, toujours facile pour les gens de couleur, les gens d'origine haïtienne, d'origine africaine. Et comme vous avez parlé vous-même, il y a une diversité. Maintenant, nous composons cette diversité. Nous sommes majoritaires dans certains cas, n'est-ce pas? Alors, parlez-nous un petit peu de ce partenariat avec Téléfilm Canada. Partenariat qui est un partenaire majeur du programme Être noir au Canada, et surtout comment tout cela va se traduire dans la pratique?
Ben déjà, oui, nous aussi on est très heureux. On travaillait déjà avec Téléfilm Canada sur le festival du film black de Montréal depuis quelques années. Et là nous sommes très heureux d'accueillir Téléfilm Canada comme partenaire majeur du programme, aux côtés du présentateur officiel du programme qui est Netflix et de la Banque nationale qui est un partenaire majeur, ainsi que le Fonds canadien des médias du Canada. Donc c'est vraiment une entente, comment je peux dire, multisectorielle, où on a quatre grands partenaires qui se sont mis ensemble. On avait déjà annoncé Netflix, la Banque nationale et le Fonds des médias, et là, Téléfilm qui se joint, donc c'est magnifique. Je pense que ça prend ce genre de partenariat important pour que ça bouge, pour que ça change vraiment, parce que l'argent, c'est le nerf de la guerre, et si les subventionnaires et les corporations n'investissent pas massivement, ben on ne peut pas faire de l'inclusion massive, parce que les artistes et les créateurs des communautés noires ont tellement accumulé de retard que là, ça prend les bouchées doubles, en fait, les bouchées triples, si on veut même arriver au niveau normal. Donc, imaginez. Alors, déjà, avant tout, j'aimerais, si vous me permettez, expliquer c'est quoi déjà le programme Être noir au Canada, pour que les gens puissent avoir une idée. Être noir au Canada, en fait, c'est un programme qu'on a créé depuis 2012, mais lancé en 2014. La première cohorte, c'est en 2014. Et c'est un programme où on va chercher, on fait un appel à participer incubation à Montréal, Toronto et Halifax pour permettre à des jeunes noirs entre 18 et 30 ans eh bien, de postuler, d'appliquer pour participer au programme. C'est un programme de mentorat, de formation et de création. Tout ça dans le but qu'ils viennent apprendre à écrire, rechercher, créer, produire, faire leur premier documentaire, court-métrage, avec l'aide de professionnels du milieu. Donc nous embauchons les meilleurs professionnels du milieu, que ce soit à Montréal, Toronto ou Halifax, pour accompagner ces jeunes-là dans l'écriture de leurs films, pendant qu'ils sont en train de tourner leurs films en tant que réalisateurs avec l'équipe technique et les équipements professionnels. On leur donne aussi salle de montage et accompagnement avec un monteur professionnel pour monter leurs films. Et par la suite, on envoie en post-production et nous faisons la tournée des festivals de films black avec leurs films pour qu'ils puissent rencontrer le plus possible de nouveaux publics. Et enfin, eh bien, ces films-là vont passer, ça tombe très bien, vont passer le 7 novembre justement sur CBC et CBC Gem. Donc tout le monde, tous les Canadiens auront la chance de voir ces films-là sur CBC Gem. Et CBC aussi, si vous habitez en Ontario et à Nouvelle-Écosse. Et les films en français, eh bien, sont passés le 1er juillet dernier à Télé-Québec et sont actuellement disponibles sur la plateforme de Télé-Québec.tv. Donc c'est pour vous dire qu'en l'espace de quelques mois, ce programme offre aux jeunes noirs participants, et ce, ils ne payent rien, hein, c'est nous qui allons chercher des partenaires solides, justement, comme Téléfilm Canada, Netflix, la Banque nationale, le Fonds des médias du Canada, les conseils des arts, que ce soit du Canada, de Montréal et de Toronto, etc., pour vraiment venir couvrir tous les frais et faire la promotion de ces films-là et faire voyager ces jeunes-là. Bon, ça c'était avant Covid, on les faisait voyager littéralement dans tous les festivals et ensuite ils allaient dans d'autres festivals. Donc c'est pour vous dire que c'est un programme 360 degrés en quelques mois où on les rend éligibles pour rentrer dans ce milieu-là, en grande pompe, par la grande porte.
Vous écoutez Popourri Show, votre magazine de la francophonie sur CUT 89,5 FM. Mon invité aujourd'hui, Madame Fabienne Collat, fondatrice de la Fondation Fabienne Collat en direct de Montréal. Et nous parlons aujourd'hui d'un partenariat entre Téléfilm Canada et la Fondation Fabienne Collat. Ce partenariat permettra à 20 nouveaux participants en provenance de Montréal, Toronto et Halifax de s'ajouter au programme 2020-2021. Et d'ailleurs, nous aurons tous les liens nécessaires sur notre site popourrichaud.com. Un programme très 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 intéressant, mais comme vous le savez, il y a des gens qui ont toujours des doutes parce qu'il y a des gens qui attendent leur tour depuis 40 ans, 50 ans, même 60 ans. Je les connais. Ils sont producteurs, ils sont cinéastes, ils sont écrivains et ils n'ont pas eu cette première chance. Vous faites un travail de titan. Bravo. Alors, on le sait très bien qu'il y a un manque flagrant de diversité dans les médias francophones au Canada. Est-ce que les récents mouvements de protestation Les Vies Noires comptent, Black Lives Matter, ont eu un impact sur la concrétisation de ce partenariat historique entre Téléfilm Canada et les autres partenaires et votre fondation?
Moi, je pense que ça a accéléré peut-être les choses parce que ça faisait très longtemps depuis que le milieu cinématographique, les subventionnaires, le public et tout le monde, ça fait longtemps qu'on savait qu'il y avait ce manque-là. En tout cas, nous, pour notre part, ça fait déjà 16 ans qu'on le martèle un peu partout dans les médias, dans les entrevues, dans les articles, dans le travail que nous faisons. Et c'est d'ailleurs la raison d'être de notre existence. Et c'est pourquoi que nous faisons tout ce qu'on fait. C'est à cause de ce manque-là, pour pallier à tout ça. Non seulement pour donner une vitrine à ces artistes et créateurs, mais en même temps pour faciliter le réseautage, le maillage des collaborations entre nos artistes noirs et d'autres artistes, d'autres gens de l'industrie parce qu'ils ont peu accès, et en même temps pour les outils à travers des formations, des ateliers, etc., etc. Je veux dire, on n'a pas arrêté. Donc ça a toujours existé, ce problème-là. C'est juste que le mouvement, la résurgence du mouvement Black Lives Matter a permis de remettre ça comme priorité, comme préoccupation prioritaire sur la place publique. Et ça a vraiment montré que c'était urgent qu'on s'y attelait, qu'on fasse quelque chose. Donc je pense que oui, ça a aidé à montrer l'urgence de la situation parce que ces partenaires-là étaient au courant du problème avant. Mais là, ça a vraiment précipité un peu, en fait, tout le monde, hein, du côté de tout le monde que waouh, il faut faire quelque chose maintenant.
Oui, et donc, vous savez que oui, sans vous interrompre, nous sommes sur un milieu universitaire et nous travaillons sur des rapports, des études, parce qu'il faut toujours avoir des statistiques, n'est-ce pas, pour prouver qu'il y a un besoin, qu'il y a des demandes. Alors, il y a quelques années de cela, je pense que c'était en 2016, l'Université du Québec à Montréal avait commandé une étude sur la représentation des groupes ethnoculturels à la télévision québécoise de langue française. Et une des questions était, la télévision québécoise ou francophone véhicule-t-elle des préjugés ou stéréotypes vis-à-vis des groupes ethnoculturels? Et beaucoup de professionnels, producteurs noirs, m'ont dit, en toute confidentialité, que pour combler le vide au niveau des programmes dans beaucoup de médias, ils sont obligés de se cantonner dans des médias communautaires parce qu'ils trouvent pas leur place dans les médias officiels ou commerciaux. Alors donc, est-ce que donc il y a des obstacles? Alors pour ces jeunes que vous allez rencontrer pour la première fois, qui vont faire leur premier pas chez vous, comment allez-vous faire pour démystifier pour tous ces obstacles qui peuvent exister dans leur vie, dans leur quotidien, et pour les intégrer plus facilement dans votre programme?
Mais en fait, c'est là la beauté du programme Être Noir au Canada. J'invite tout le monde à faire un petit tour sur êtrenoirocanada.com et ceux qui, si le cœur vous en dit, de même faire un don, parce qu'on a besoin de l'aide de tous et chacun pour que le programme continue.
Vous êtes un organisme à but non lucratif.
Totalement, totalement, à but non lucratif. Donc, êtrenoirocanada.com. Maintenant, et puis aussi, c'est surtout pour aller chercher des formations et pour mieux comprendre et voir aussi notre dernière cohorte dont les photos sont là, on a la bande-annonce de leur film, etc. Ce qui arrive, c'est que ce programme que nous avons créé en 2012 et qui a été lancé pour la première fois en 2014, on a eu tout plein de problèmes pour continuer le programme parce qu'à l'époque, il n'y avait personne d'intéressé qu'on avait contacté. On était en avance sur notre temps un peu, moi je dirais. Et puis finalement, on a repris le programme il y a quelques années et l'année dernière, ça a donné 15 beaux films extraordinaires avec 15 jeunes de Montréal, Toronto et Halifax. Ce qu'on avait constaté, c'est que effectivement, on avait fini avec une cohorte et là on lui disait ciao ciao, merci bien, on est très content de vous avoir soutenu et puis bon, c'est le temps de voler de vos propres ailes et puis nous on passait à la prochaine cohorte. Eh bien ça, on a trouvé que c'était pas vraiment la façon de le faire et c'est pour ça que grâce à ce partenariat Téléfilm Canada, Centre des médias du Canada, Banque nationale et présenté officiellement par Netflix. Ça ne veut pas dire que les films vont passer sur Netflix, on aimerait bien, mais Netflix a vraiment été un partenaire pour le programme de formation. Donc, ce partenariat-là nous permet de créer un programme des anciens également. C'est-à-dire que non seulement on a 20 jeunes qui participent cette année, dont 5 à Toronto, 5 à Halifax et 10 à Montréal, parce qu'à Montréal, nous avons deux cohortes, une en français, une en anglais, eh bien, on est en train de créer un programme des anciens où ceux qui ont participé les autres années, justement, puissent continuer à suivre, à avoir du mentorat et de la formation pour passer au prochain projet, à leur prochain projet, pour pouvoir savoir comment monter une demande de subvention et pour déposer leur demande de subvention, que ce soit au Conseil des arts, que ce soit à Téléfilm Canada, ou à la SEDEC, ou bien Ontario Creates, peu importe où ils habitent. Parce que ça, c'est important, parce qu'après, on ne savait pas trop qu'est-ce qu'ils devenaient. Mmh. On ne savait pas trop s'ils étaient dans le milieu ou pas, s'ils rencontraient les bonnes personnes pour leur carrière. Donc, c'est important, ce pont-là, de continuer à bâtir le pont. J'ai eu plusieurs conversations. D'ailleurs, je siège sur divers comités pour Téléfilm Canada et le Centre des médias du Canada en termes de diversité, etc. aussi. J'ai eu plusieurs conversations avec le milieu pour dire pourquoi il y a peu, justement, de producteurs, de réalisateurs, en tout cas de créateurs noirs, à être soutenus chez vous, que ce soit au niveau provincial, fédéral. Et ils étaient unanimes à dire que, écoutez, ils ne soumettent même pas leur projet. Ils ne soumettent pas de projet. On peut être sur la table en train d'analyser une dizaine, une centaine de projets. Ils ne sont même pas là. Donc, on ne peut pas financer des gens qui ne sont pas là. Et là, c'est là que nous, ça c'est depuis très, très longtemps, et c'est pour ça qu'on a créé ce programme-là, justement, pour dire, écoutez, on va outiller des jeunes à être éligibles, premièrement, à déposer, parce que c'est pas qui veut qu'ils déposent comme ça spontanément. Il faut avoir fait une démarche, qu'on leur a donnée. Et en même temps, on va les accompagner dans la paperasse. parce que c'est beaucoup de paperasse. Oui. C'est beaucoup de paperasse pour déposer un projet. Et comme les gens des communautés noires qui sont dans le milieu eh bien, doivent survivre, ils doivent faire mille choses pour survivre, eh bien, passer du temps à faire cette paperasse-là, c'est pas nécessairement la priorité. Donc c'est pour ça que nous, on vient avec du renfort, des gens de l'industrie qui sont passés par là et qui vont les accompagner là-dedans. Donc effectivement, vous avez absolument raison. Dans les médias, c'est criant également. On n'a pas assez de journalistes, de chroniqueurs, d'auteurs, qui sont là non plus. Donc c'est vraiment un fléau, mais on prend ça, nous, du côté télévision et cinéma, avec le programme Être Grand au Canada, entre autres choses, et les différentes plateformes de festivals que nous avons à travers le pays également, pour tenter d'apporter, de changer les choses.
Il est grand temps. Pensez-vous qu'en 2020, les médias francophones sont en retard dans l'embauche des personnes racisées, et quel est votre message aux responsables des médias qui nous écoutent en ce moment?
Moi, je leur dirais d'avoir un peu plus d'audace. Moi, je leur dirais qu'il faut engager des gens dans la même proportion que ces gens-là sont reflétés dans les villes où ils sont, dans les provinces où ils sont. Il faut que notre paysage médiatique reflète la réalité démographique de nos sociétés. Et à Montréal, par exemple, le premier groupe ethnique, la plus importante communauté noire, c'est la communauté haïtienne, mais le plus grand groupe point, c'est les communautés noires, donc on doit aller dans cette proportion-là également. On sait qu'à Toronto, par exemple, plus de 55% de la population s'identifie minorité visible, mais on ne voit pas nécessairement 55% de la population reflétée dans les médias. Donc, je peux continuer, hein, je peux aller dans chaque ville du Canada, c'est le même problème. Donc moi, je dirais à ces médias, premièrement, il faut être équitable, il faut avoir de l'équité et puis avoir ces chiffres-là. Il faut être audacieux, il faut mettre des quotas, des cibles. Il y a des gens qui, même des gens qui font partie des minorités visibles, des communautés racisées, communautés noires, je les entends tout bas de « oui, mais je ne veux pas être un quota, je ne veux pas qu'on m'engage parce que je suis un quota, je veux qu'on m'engage parce que je suis qualifiée, mais j'ai de bonnes nouvelles pour vous ». Même s'il y a des quotas, il n'y a personne qui va embaucher quelqu'un de non qualifié ou d'incompétent parce qu'ils n'ont pas le temps ni l'argent pour ça. Personne ne va mettre de l'argent pour embaucher qui que ce soit qui ne soit pas compétent. Donc, le quota, qu'est-ce que ça fait? Ça fait seulement qu'on s'arrête en chemin pour vous regarder, pour poser un nouveau regard sur votre CV. Parce que s'il n'y avait pas de quota, à ce moment-là, on serait passé tout droit. Et ce ne serait pas vous qu'on regarderait. Votre CV ne serait même pas sur la table. C'est ça que ça fait le quota. Le quota, ça permet l'égalité des chances. Mais rendu dans la salle, rendu sur la table, votre CV ou vous, ben écoutez, il faut que vous soyez trois fois plus excellent. Ça, c'est sûr. C'est toujours comme ça, d'ailleurs. On est rendu habitué à être excellent parce que c'est notre seule chance d'aller quelque part. Donc, bon, c'est un mal pour un bien. Mais quelque part, le quota, c'est important parce que quand on ne légifère pas, quand on ne prend pas de cible, eh bien, au lieu de trouver des gens racisés qui ont du talent, eh bien, on trouve plein d'excuses.
Oui. D'ailleurs, il y a des lois hein, au niveau fédéral avec l'équité en matière d'emploi où je travaillais, les entreprises, les organismes qui sont régis par des lois au niveau fédéral doivent démontrer une représentativité, n'est-ce pas, quand ils embauchent. Alors, donc, il y a une méconnaissance, il y a toute une éducation à faire, sans doute. Alors, c'est un projet qui nous rejoint, Madame Collat. C'est 100% de notre mandat d'être, de refléter la diversité, hein, dans tout ce qu'on fait depuis 34 ans bientôt à l'émission. On retrouve des gens d'une diversité incroyable, surtout beaucoup de Noirs qui sont méconnus. D'ailleurs, le slogan de notre émission au tout début, c'était la voix des sans-voix, pour justement donner une voix à tous ceux et celles qui sont qualifiés, qui ont du talent, mais qui ne sont pas représentés à l'antenne. Alors, donc, j'espère qu'un jour, on aura l'occasion de vous voir en personne, ou de travailler avec vous, de peut-être...
on pourra vraiment circuler parce que cette affaire de pandémie qui d'ailleurs a mis KO, hein, KO carrément une bonne partie de la communauté culturelle et du milieu artistique puis du monde des festivals. Donc on doit se réinventer. Nous, on s'est réinventé cet été avec le Festival Haïti en Folie à Montréal qu'on a fait complètement virtuellement en collaboration avec le Festival Haïti en Folie à New York. On a pu quand même avoir les artistes qui performaient virtuellement. actuellement et qui quand même pouvaient être payés pour leurs performances, etc., ceux qui ont fait de nouveaux spectacles. Donc quand même, il faut trouver d'autres moyens pour aller virtuel. Et puis, on vient de faire le Festival du film Black de Montréal, qui a connu un succès incroyable. Plus de 300 000 festivaliers, a été en folie plus d'un million, 250 000 festivaliers.
Ah oui.
Donc là, on prépare actuellement, pour le mois de l'histoire des Noirs, eh bien, trois festivals dont j'invite vos auditeurs, parce que là, ça va être virtuel en plus, donc tout le monde pourra bénéficier. Mmh. C'est le Festival du film Black de Toronto qui se passe milieu février, c'est le Festival Fondu au Noir à Montréal qui se passe fin février, et c'est aussi le Festival du film Black de Halifax qui se passe en fin février. Donc, et tant d'autres surprises qui s'en viennent, mais c'est aussi, on va lancer, eh bien, à la fin de cette année ou en début de l'année prochaine, eh bien, l'appel, la participation pour le programme Être Noir au Canada dans différentes villes. Et la bonne nouvelle qu'on a, c'est que grâce à ce partenariat majeur avec Téléfilm Canada, la Banque nationale, le Fonds des médias du Canada et Netflix comme partenaire principal, eh bien, nous allons pouvoir étendre pour 2021 le programme aussi à Ottawa, Vancouver et Calgary. Donc, pour les gens qui ont des amis, de la famille dans ces endroits-là, eh bien, n'hésitez pas quand vous allez voir passer cette demande d'application, de partager en masse et puis de les envoyer à vos proches, parce qu'il nous faut créer et outiller cette nouvelle génération de producteurs, de réalisateurs noirs au Canada, et on va le faire et on va vraiment donner du sang neuf et des gens outillés pour prendre la relève là dans ce milieu artistique, pour qu'on arrête de nous dire qu'on n'envoie pas d'application noire, qu'on ne sait pas où aller chercher les rêves.
Et je vous soumets notre offre d'une façon officielle et publique à l'antenne. Nous aimerions travailler en partenariat avec vous. Alors, on trouvera des occasions pour en parler, mais on aimerait travailler parce que ça rejoint, comme je vous l'ai dit, à 100% notre mandat. Alors, à l'année longue, on est là pour diffuser vos initiatives et vos projets à l'antenne.
Eh bien, on vous remercie parce qu'on a besoin de faire un faisceau de solidarité et de collaboration, effectivement, si on veut bouger, puis aller loin, aller vite. Et puis, je remercie aussi les gens qui vous entendent en ce moment, qui ne sont même pas noirs, c'est-à-dire que ce sont des alliés de votre émission, des alliés de la diversité, des alliés des gens des communautés racisées qui portent ce combat avec nous et qui sont à côté de nous, qui poussent, qui marchent avec nous, qui y croient. Donc je remercie ces alliés-là dont on a besoin également. Donc vous aussi, même quand vous allez voir passer ce genre d'initiative, vous avez sûrement des gens de ces communautés-là qui vous suivent sur vos réseaux aussi. Donc vous pouvez tout de même aussi les partager.
Oui. Et d'ailleurs, j'invite les auditeurs, auditrices à aller visiter votre site web fondationfabiennecollat.org. C'est en français et en anglais. Fabienne Collat, fondatrice de la Fondation Fabienne Collat, un organisme à but non lucratif, militante de la diversité culturelle à Montréal et au Canada. Ce fut un plaisir de vous recevoir pour la première fois et j'espère que ce n'est pas la dernière fois. J'espère qu'on aura l'occasion de couler en béton, dans le béton, comme on dit, un partenariat solide, médiatique entre nos deux entités. Je vous souhaite bon courage, bonne chance. Tenez-nous au courant de l'avenir, hein, de ce projet.
Avec grand plaisir et merci beaucoup pour votre émission. Je pense que c'est une émission qui est importante et puis qui donne vraiment une voix importante à des gens qui font des choses extraordinaires. Donc bravo oui. Et de continuer à durer également, et puis on se parle très très bientôt. Merci.
Et bravo à votre belle équipe, que la force soit avec vous.
Merci.
Au revoir.
C'est la première fois que RFI est massivement en Haïti dans une grande opération de décentralisation avec Claire Hédon pour Priorité Santé, avec Yvon Amar pour La Danse des Mots, avec Anne-Cécile Bras pour C'est pas du vent, mais aussi avec la tranche d'info Haïti-Amérique qui vient d'être créée il y a quelques mois sur la chaîne. C'est un moment important parce que nous allons à la rencontre d'auditeurs qui sont francophones et qui ont un rapport assez passionnel, comme les auditeurs africains finalement, avec cette radio qui, certains disaient, les distrait de leur quotidien. Et quand on est énervé localement, on va écouter RFI. C'est une radio qui ouvre des portes, qui ouvre des horizons et qui met les pendules à l'heure, disait un auditeur. Ah,
Attention, prêt, déguster. FCI et vos restaurants Élysée vous invitent à découvrir la délicieuse cuisine de Prisca Morgeon. Tous les mercredis et vendredis à 11h, rendez-vous sur les Facebook de RCI Martinique et de Snack Élysée et retrouvez les vidéos Tété Douette. Des recettes savoureuses et équilibrées, faciles à réaliser chez vous. Alors faites-vous plaisir. Encore plus de bonus gourmands vous attendent sur le Facebook.
CIUT 89.5 FM, the station that brings you Democracy Now! With Amy Goodman, Monday to Friday, 10 to 11 a.m.
CIUT 89.5 FM, the sound of your city. Your radio, CIUT 89.5, the sound of your city.
L'actualité africaine, c'est tout de suite sur France 24, à la une ce soir.
Incroyable exploit réalisé par le Bénin.
Politique, économie, développement. Art, toute l'actualité africaine est sur France 24. Sur le terrain, nos journalistes interviennent dans chaque pays, dans chaque région, pour témoigner de l'émergence d'un continent aux richesses inégalées. L'Afrique, c'est une histoire que nous écrivons ensemble pour vous sur France 24. Liberté, égalité, actualité.
Du 16 au 22 novembre, CUTFM revient avec sa campagne de dons. Malgré la saison automnale très particulière, cette année, la campagne MK Radio bat son plein et compte sur vous pour garder l'antenne. Faites un don à notre émission en visitant le site web cut.fm. Aidez-nous à garder Popourri Show, la seule et l'unique émission en français sur les ondes de la radio du campus de l'Université de Toronto. Du 16 au 22 novembre, la collecte de dons automnale MTA Radio bat son plein. Allez, on vous attend en grand nombre. Faites un don maintenant en visitant cut.fm. Cliquez simplement sur le bouton « Faire un don » et aidez-nous à garder le son de votre ville en ondes. Depuis 1966, CUTFM est à vos côtés. Aujourd'hui, plus que jamais, la radio compte sur vous, compte sur toi. La radio vous lance un appel à faire un don du 16 au 22 novembre. Aime ta radio et fais un don en ligne en toute sécurité en visitant le site web cut.fm. CUTFM, la radio comme je l'aime.
Charles. Et justement, vous aussi, Charles, vous souhaitiez rendre un petit hommage à Alain Rey.
Ben oui, car Alain Rey, comme l'a souligné Nicolas, aimait les jeux de mots. Il s'attachait à la vivacité de la langue française. Il était très loin d'être un conservateur. Il adorait le verlan, l'argot, tous les nouveaux mots. Il avait même répondu au défi lancé en 2017 par les rappeurs Big Flo et Oli, ainsi que le youtubeur Squeezie. Alain Rey s'était à l'époque essayé au slam. Écoutez.
Alain, c'est quand tu veux.
Je veux pas mourir d'inanition. Mais je veux chiller avec mes hey. J'aime pas trop les hipsters. Je préfère ceux qui me disent « Oh mon hey, t'es le sang. » Ça, c'est peut-être pas du freestyle, mais je crois que ça fera le job. Ça fera le job. Oh
12 millions de vues sur YouTube à l'époque pour cette performance, preuve que la passion, l'érudition d'Alain Rey parlait à toutes les générations. Hier d'ailleurs, Squeezie, Big Flo et Oli lui ont rendu hommage à leur tour sur Twitter.
Et oui, vous venez d'entendre un extrait d'un slam, mettant en vedette les slameurs Squeezie, Big Flo et Oli, très connus en France, et Alain Rey, qui est décédé le mois dernier, grand linguiste, auteur et l'un des pères fondateurs du dictionnaire Le Petit Robert. Il était aussi chroniqueur à France Inter. Il avait une passion pour la diversité de la langue française. Et aujourd'hui, nous aimerions lui rendre hommage. Mais d'abord, je vous rappelle le passage de Marcel Lynn, fondatrice de Ciné Franco, vers 12h35. Ciné Franco tient tête à la pandémie. Et oui, devenez membre de notre émission et courez la chance de gagner des passeports pour 5 films de votre choix. Écrivez-nous immédiatement popourri@cut.fm vers la fin de l'émission. Petit détour au dernier gala de la disque à Montréal.
Alain Rey nous a quittés le 28 octobre dernier. Ce grand linguiste a aimé les mises en scène du langage, le français sur Internet, l'évolution de l'orthographe, le cam franglais qu'on parle au Cameroun et même ailleurs, l'explosion de la littérature francophone tout autour du monde. S'interroger sur la langue n'est pas seulement une curiosité aiguë, c'est un révélateur du monde où nous vivons. À notre façon, nous aimerions rendre hommage à ce grand linguiste et grand francophone du monde. Il était à l'émission « La danse à des mots » sur RFI, présenté par Yvan Amar.
La danse des mots, Yvan Amar.
Bonjour, la danse des mots RFI, avec vous Alain Rey aujourd'hui. Vous n'êtes pas à nouveau dans l'émission, vous venez souvent, chaque fois on parle de choses différentes, chaque fois c'est un plaisir. Il faut dire que vous travaillez beaucoup, puisque tout récemment vous avez fait paraître deux livres, 200 drôles de mots qui ont changé nos vies depuis 50 ans, aux éditions du Robert, et puis un gros livre qui appartient à ce qu'on appelle les beaux livres, Polyphonie au pluriel, coédité par le Robert et par Albin Michel, que vous faites paraître avec la peintre et plasticienne Fabienne Verdier. Verdier, c'est de ces deux choses que nous allons parler aujourd'hui dans la danse des mots. Alors, on peut peut-être commencer par ces 200 drôles de mots qui ont changé nos vies, c'est l'une des choses qui m'a étonné justement. Parce que bien sûr, les mots ça change la vie. Mais de temps en temps, on pense que les mots changent la vie alors que c'est le référent qui change la vie. Quand on parle d'Internet, Internet est peut-être un mot qui a changé nos vies, mais l'existence de l'Internet en soi a changé nos vies davantage.
Oui, mais Yvan, vous savez bien que ce qui n'est pas nommé n'existe pas. C'est ça le problème. Tandis que
dès qu'il y a... Je ne veux pas dénier la force du symbolique, c'est sûr.
Dès qu'il y a quelque chose qui nous arrive en matière technique, par exemple, et qui n'a pas de nom, ça reste très indécis. Ça peut être une pratique, mais si elle n'est pas nommée, elle n'a pas beaucoup de chances de se diffuser. Il faut pouvoir parler des choses pour les rendre importantes. Et la société est faite comme ça. Nous avons besoin de la parole, et là, il se trouve que c'est dans la langue française, mais on voit dans ce bouquin que la langue française est maintenant fait partie d'un ensemble qui est très très souvent mondialisé, plurilinguistique, et où le même mot ou la même formation onomatopéique va se répandre dans le monde entier, ce qui est à la fois un bien pour la communication générale et quand même un problème pour la langue française qui se trouve un petit peu secouée par ce genre de choses.
Alors, dans votre travail, vous avez essayé de rechercher des mots qui dataient en gros d'une cinquantaine d'années, hein, de 1960.
Oui, c'était un petit peu un clin d'œil, puisque nous avons fait paraître au Robert il y a très peu de temps, et les deux livres que vous avez là en sont un peu le témoignage indirect. Une édition du Petit Robert, très 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 mise à jour, bien entendu, et qui, justement... et le cinquantenaire de ce bouquin, ce qui représente pour moi les trois quarts de ma carrière, parce qu'elle est encore plus longue que ça, et qui me paraissait un bel hommage rendu à ce travail collectif et très long, quand même 50 ans c'est long, d'observation de la langue française, parce qu'on pense toujours à la constitution d'un nouveau dictionnaire. C'est une nouveauté, c'est une actualité, c'est un scoop, on en parle beaucoup. Après, on en parle beaucoup moins. Mais on a tort, parce que un bon dictionnaire est un dictionnaire qui est vivant, comme la langue elle-même. Sinon, il est condamné à vieillir. Alors, c'est ce qu'on appelle un monument. C'est ce que Raymond
Queneau... C'est Queneau... le littré, par exemple.
Oui, c'est le littré que Raymond Queneau...
Qu'une seule édition.
Queneau disait de ces dictionnaires-là que c'était des alphas décédés. C'est à la fois l'ordre alphabétique, mais c'est un petit peu des cimetières. Alors que quand on observe la langue, et ce dont le public ne se rend pas toujours compte, ils pensent aux mots nouveaux, mais il n'y a pas que les mots nouveaux, il y a des sens nouveaux, il y a des locutions nouvelles, il y a le fait qu'il faut surveiller les définitions, parce que s'il y a un mot archaïque dans une définition, il faut le changer. Il y a, tout change, la manière de parler des choses, et donc de parler des mots aussi. Donc il faut surveiller ça, il y a une veille permanente, et on fait une sélection, et par rapport à cette sélection, chaque édition va être passablement différente, avec entre 300 et 500 unités nouvelles de sens, de signification, ce que j'appelle des unités de traduction, parce que quand on compte un dictionnaire en mots, c'est une fiction. Ce qui est important, c'est de savoir à l'intérieur des mots s'il y a toutes les locutions, s'il y a tous les sens, et ça, parfois, on voit bien que ils méritent un traitement spécifique, parce que si on les traduit dans une langue étrangère, ça sera pas la même traduction. Donc, ça fait partie de ce qu'il est nécessaire d'apprendre pour une langue, et on se situe donc, en faisant un dictionnaire absolument et seulement français, dans une optique internationale qui est l'apprentissage de la langue française. Voilà, donc ça oblige à une veille permanente, et là, on a sélectionné avec une équipe, hein. Je tiens à dire que c'est un travail collectif. Les gars ont préparé, les gars et les filles, parce que il faut pas être machiste. Il y avait peut-être même plus de filles que de garçons, ce qui va poser un problème pour l'accord au pluriel, comme on le sait bien avec l'écriture intégrée. Voilà. Mais il fallait donc préparer ça avec les mots qui ont été choisis avec le critère suivant. On s'est dit, tiens, il y a des gens qui ont maintenant 20 ans et qui disent, tiens, ça c'est un mot de mon père ou c'est un mot de mon grand-père. Et puis il y a des gens qui ont aussi 20 ans et qui aujourd'hui, tiens, c'est un mot que j'entends par mon fils et que je connais pas encore. Et donc on a fait en haut de chaque page une petite liste des décennies, comme ça. Et en gras, il y a la décennie qui est celle du mot. Et
donc oui, ça permet un regard rétrospectif sur les 50 dernières années à peu près, où on voit bien qu'il y a des mots, en effet, qui sont tout à fait sortis d'usage, soit que eux-mêmes ne soient plus employés, soit que ce qu'ils désignent n'existe plus, sinon à titre vraiment tout à fait épisodique. Oui, il y en a deux, par exemple, que j'ai relevé. C'est Dedeuche et Schmilblick.
Oui, on peut ajouter Minitel, hein, qui était...
Et on peut dire Minitel, oui, qui est beaucoup plus récent, qui n'existe plus.
C'est des mots qui n'existent
alors,
plus.
Alors, éclairez-nous sur la Dedeuche. Est-ce que vous en avez eu une?
Alors, la Dedeuche, j'en ai pas eu, mais j'admirais beaucoup les gens qui en avaient, et je les enviais, parce que c'est quand même une voiture géniale, et j'ai été très triste qu'on ne l'ait pas recyclée, comme Volkswagen a su le faire pour la Coccinelle, parce que ça méritait de l'être, étant donné que c'était encore plus génial que la Coccinelle, parce que ça coûtait encore moins cher, que ça consommait encore moins d'essence, que ça tombait jamais en panne.
Et que c'était facile relativement à réparer.
C'était facile à réparer, c'était pas trop confortable quand on avait une route. Alors, ce qu'il y a de bien, c'est que justement, à partir de deux chevaux, il y a un certain nombre d'abréviations qui sont mises en place, ce qui veut dire que, et la chose, et le mot, était entré dans l'usage général.
Oui, on parlait de Deuche, mais aussi de Deuche.
La Deuche, oui. C'est plus sympathique que Deuche, parce que c'est un diminutif, et que comme tous les diminutifs, on dit, quand on est savant, que c'est des hypocoristiques, ça veut dire qu'on est content, que c'est gentil, enfin bon,
oui, il y a un côté... Hypocoristique, c'est coucouche-panier, papa-tant-rond, quoi.
C'est un petit peu ça.
Mais c'est un hypocoristique particulièrement bien trouvé, la Dedeuche, puisqu'il se redouble, et que dans le nom de chevaux, il y a l'idée même du redoublement.
Absolument.
Donc c'est un hypocoristique doublé d'un pléonasme.
Doublé d'un pléonasme, et d'un pléonasme qui est un pléonasme aussi de la chose elle-même, puisque le moteur avait deux temps. Donc voilà, c'est formidable.
On va changer de décennie et entendre maintenant parler... Ben, vous allez voir de quoi.
Je suis pire, c'est ma nouvelle philosophie. hip hip hip, hurra, vive le Moukoutra.
Ce dépressif sympathique, vous l'avez tout de suite reconnu, c'est Jacques Dutronc qui nous parlait des hippies. Alors ça aussi, c'est un mot qui a beaucoup disparu, parce que l'époque n'est plus aux hippies.
Oui, mais c'est un mot qui reste, je crois que l'article qui lui est consacré dans le livre le dit clairement, ça a marqué toute une époque d'une part, et puis il y a des relents parce qu'il y a des mouvements plus récents et qui s'inspirent en partie des hippies, et on en voit réapparaître dans les films, on en voit réapparaître dans les chansons, et je pense que c'est quelque chose qui ne sera pas facilement oublié.
C'est vrai, et le hippie, il vieillit. Et quand il vieillit, que devient-il? Un baba cool.
Oui.
Je ne sais pas si baba cool est présent dans votre dictionnaire. Il doit bien être là.
Sans ça, je saute par la fenêtre. Je me tue, mais bon.
Non, pas tout de suite. Donc, on vient de parler rapidement des mots qui ont disparu, soit que le référent, soit que le mot lui-même se soit évaporé de la langue. Et puis, il y a des mots qui apparaissent. Non pas qu'ils désignent des choses qui n'existaient pas avant, mais on les nomme justement. C'est ça que vous disiez, l'important c'est de nommer. Je prends le mot doudou. Oui. Bah, j'imagine qu'il y a 30, 50, 70 ans, les enfants très souvent avaient un objet qu'on n'appelait pas encore objet transitionnel parce que c'était trop technique. Mais le doudou a un succès fou, le mot doudou.
Oui, alors le mot doudou a un succès fou, c'est une onomatopée. Ça a un petit côté peut-être francophone hors de France parce que ça fait penser aux Antilles aussi.
Mais ça c'est au féminin aux Antilles.
Oui, mais il y a quand même cette idée de la douceur qui est présente.
Il y a l'idée de la caresse et de la tendresse.
De la caresse et de la tendresse. Et en fait, vous avez mille fois raison, il y avait des doudous dans l'antiquité gréco-romaine, on en voit dans les musées, ce sont des petites poupées informes, et naturellement, quand c'était des chiffons, ce qui est souvent le cas, c'est du textile, ça disparaît plus vite que le reste. Mais je pense que dès le paléolithique, qu'il devait y avoir des doudous chez Sapiens, et même dans le Néandertal. Je crois que c'est une chose très très ancienne. Et c'est vrai que tout d'un coup, il y a une désignation particulière pour cet objet qui attire l'attention non seulement sur l'objet lui-même, mais évidemment sur sa fonction. Mmh. Et ça marche avec la psychologie infantile, avec le fait que l'enfant a besoin d'un support matériel pour transférer ses sentiments. Cet esprit de transport a été lui aussi désigné, nommé, étiqueté avec cette idée de l'objet transitionnel. Quoi. Cela dit, on ne va pas définir le doudou. Si on définit le doudou par objet transitionnel, on définit quelque chose de facile et de compris de tout le monde par un truc que personne ne comprend, ce qui n'est pas idéal au point de vue pédagogique. Donc j'aimerais mieux qu'on le définisse autrement.
Le doudou, c'est bien. Hein.
Par sa fonction. Le doudou est très bien.
Alors, il y a des mots que vous mentionnez aussi qui n'existent pas depuis si longtemps que cela, alors qui désignent, par exemple, des maladies. Il y a le mot bipolaire. Naguère, on disait quoi? On disait maniaco-dépressif. De temps en temps, on le dit de moins en moins, on dit bipolaire. On sait, en général, hein, me semble-t-il, on ne sait pas exactement ce que ça veut dire.
Non,
ça désigne
non.
En effet une sorte de posture psychique.
Etienne le dirait que c'est encore la manie anglo-saxonne, parce que bipolaire n'est tout simplement que le calque, en bon français quand même, de quelque chose qui a été nommé en anglais. Voilà, c'est un peu la même chose avec des noms de pathologies. C'est très souvent la médecine américaine qui d'ailleurs a des désignations qui sont très imprécises et que
plus imprécises qu'en français, vous pensez?
À plus imprécises que, par exemple, bon, maniaco-dépressif, c'est peut-être un peu savant, c'est emprunté au latin, avec l'idée de maniaque et de dépression au sens psychologique du terme. Et c'était nommé par un psychiatre de grand talent. Je ne sais pas pourquoi on a peut-être que bipolaire est plus simple à dire et on croit que c'est plus facile à définir.
Oui, mais je suis pas sûr que ça soit la seule raison et je me suis vraiment interrogé sur ce remplacement, ne comprenant pas tellement la vogue, parce qu'il y a une vogue, quoi.
Oui, oui. Ouais. Ben je pense que c'est la vogue de ce qui vient des États-Unis, qu'on traduit, qu'on adapte et qui s'impose. Alors quand c'est un objet nouveau comme la souris de l'ordinateur, on dit mice en anglais, c'est très bien de dire souris en français. La métaphore est la même et ça passe bien. Mais parler de hipster, par exemple, parce que les modes, tout à l'heure, il était question des hippies, mais alors là, on a eu une décoction de mots qui désignent des types sociaux, comme les bobos, comme, etc. Tout ça, ça rentre dans le livre, parce que ça ponctue un petit peu les effets de mode, et je suis pas très heureux du fait que ces modes viennent inévitablement ou presque d'Amérique du Nord. Quoi.
C'est, oui, ouais. Même si l'accent anglais est un peu oublié de temps en temps. Bobo n'est pas dit avec l'accent anglais.
Quoi. Oui, oui, et puis de toute façon, le mot bobo a été formé de manière très très bizarre sur bourgeois et bohème. Bon, mais bourgeois, c'est bou, ce serait boubo si on voulait le faire en français. Donc il fallait que ça soit quelqu'un qui connaissait pas les mots. Donc c'est du français mal interprété par un New-Yorkais et qui nous reviennent sous cette forme-là. Bon, cela dit, comme c'est une onomatopée et un redoublement comme la de Deutsch, c'est sympathique et c'est rigolo. Et quant à faire une définition sociologique précise, personne ne s'y risquera parce que c'est un peu n'importe quoi.
Fou total. Voilà, je suis bien d'accord avec vous. Alors, il y a des mots qui apparaissent, qui correspondent à une mode, mais dont on peut peut-être se réjouir qu'ils apparaissent parce qu'ils correspondent aussi à une certaine lucidité, à une façon de s'interroger sur des comportements. Je pense par exemple à machisme. Le mot machisme, qui vient lui de l'espagnol puisqu'il est calqué sur macho, n'est pas si ancien que ça.
Non, il n'est pas ancien. Il est passé, là aussi, de l'espagnol à l'anglais par toujours la Californie, qui est une espèce de creuset à la fois linguistique et...
parle beaucoup l'espagnol. On parle pas mal le chinois, beaucoup l'espagnol,
et un peu l'anglais. Et en Floride, on parle plus l'espagnol que l'anglais. Oui. Donc voilà, l'espagnol, c'est heureux pour le français, parce que c'est quand même une langue cousine, puisqu'elle vient du latin, elle aussi, comme l'italien, le roumain, le catalan, dont il est beaucoup question actuellement, et pas mal de langues sympathiques et importantes, et qui ont eu un rôle international, à commencer par le portugais, qui a envahi le Brésil et d'autres endroits. Donc tout ça se voit dans le livre, parce que vous avez sûrement remarqué qu'en dehors des 200 mots dont il est question, il y a des mots supplémentaires qui sont regroupés en série. Par exemple, j'ai rédigé, parce que j'y tenais beaucoup, un petit chapitre sur l'alimentation, parce que là, ça bouge très très vite, et que la folie de la mondialisation fait que des restaurants de toutes les origines du monde, et ça je trouve que c'est une très très bonne chose, parce que ça relativise un petit peu cette idée trop prétentieuse que les Français avaient de leur gastronomie, alors que la France est peut-être pas le pays où on mange le mieux au monde.
Donc, et ça remet aussi en perspective d'autres modes. J'ai appris avec plaisir, par exemple, que vous datez le mot vegan de la décennie des années 60.
Oui, c'est déjà plus ancien qu'on ne pense, mais il n'avait pas un très grand succès. Non. Parce que il y a deux choses à voir de manière distincte. L'apparition du mot, qu'on va trouver dans un texte, mais qui est un petit peu une citation d'un mot étranger, et puis sa reprise par les médias, par les journaux, par tout le monde dans la rue. Et vegan est devenu chic et à la mode, là, beaucoup plus récemment. Hein. Donc on a souvent ce problème, est-ce qu'on choisit l'apparition vraiment du mot dans l'écriture? Qui maintenant, grâce à Internet, devient assez facile à repérer avec un site comme Gallica, de la Bibliothèque nationale, ou bien est-ce qu'on va essayer de dater, et là c'est beaucoup plus difficile, le moment où c'est devenu un mot chic, un mot à la mode, un mot que tout le monde a envie de répéter. Bon, c'est délicat, mais c'est intéressant parce qu'on voit que l'histoire du mot n'est pas simple. Ça n'arrive pas, ça tombe bas du ciel, brusquement, c'est quelque chose qui se répand et qui fait tache d'huile dans la société, et c'est quand c'est connu de la majorité des francophones que ça devient intéressant pour le dictionnaire. C'est ça notre critère.
Alors bien sûr, dans ces 200 mots, il y a des mots modernes qui font référence aux nouvelles technologies qu'on vient d'évoquer, et en particulier, il y a le mot « hacker ». Des mots avec vous, Alain Rey, vous qui m'épatez toujours par votre capacité de travail, puisque non content de faire paraître un livre dont on vient de parler, les 200 drôles de mots qui ont changé nos vies, vous faites également paraître un très beau livre avec Fabienne Verdier qui s'appelle Polyphonie, qui est paru aux éditions Albin Michel, coédité par Le Robert, avec un livre d'art qui représente un certain nombre de toiles, de tableaux, et pas uniquement d'ailleurs de Fabienne Verdier, il y a de très belles photographies, et vous m'avez épaté d'abord par vos connaissances en épistémologie, en particulier sur toutes les sciences du XVIIIe siècle, et vous vous posez le problème sur la façon dont les arts plastiques et la peinture peuvent, de même que le langage, organiser le chaos et imposer un ordre qui permet de comprendre ou de donner l'illusion qu'on comprend le réel.
Mais quand on a pensé, c'était au Robert que ça se passait, à orner le, pas illustrer, hein, mais orner le petit Robert avec des toiles d'un peintre moderne, moi j'ai tout de suite dit, il faut que ça soit un peintre abstrait, parce que si c'est une représentation de choses qu'on va reconnaître, l'esprit va se diriger vers l'iconographie, vers ce qui est représenté, et non pas vers la peinture elle-même. C'est un grand problème d'ailleurs, parce que les gens qui vont regarder dans les musées des chefs-d'œuvre ont de la difficulté à revenir au stade de la peinture, qui est un stade technique, qui est un stade de création à partir de formes et de couleurs, et qui est là illustré par la peinture abstraite, parce que ça ressemble à rien. Ça ressemble à une pensée, et une pensée, ça s'incarne dans des mots. Donc, en rencontrant Fabienne Verdier, je me suis aperçu que avant de faire tout tableau auquel elle pensait, elle était plongée dans les mots. Et elle était plongée dans les mots, la sémantique, le sens des mots, etc. Et ce qu'elle veut faire, c'est représenter de manière esthétique, bien sûr, avec les couleurs et les formes qui s'imposent, une pensée générale qui correspond un petit peu à l'organisation du monde. Elle est complètement fascinée par les formes de l'eau, les formes de l'air, les nuages, les filigranes que représentent les photos scientifiques qu'on peut voir, les photos d'astronomie, les photos d'anatomie même.
C'est-à-dire très souvent les éléments constitutifs du réel qui nous entoure.
Du réel qui nous entoure.
Savoir si une goutte elle est concave ou elle est convexe. Voilà. C'est à ça que ça m'a fait penser de voir son œuvre.
Absolument, et de nous-mêmes, parce que le fonctionnement du cerveau, qui est nécessaire pour tout ça, pour la création humaine, il est lui-même tributaire de choses qui sont vraiment des arborescences, et le mot arborescence est un de ceux dont on a le plus parlé. Et j'ai été très très fasciné par la découverte des arborescences du cerveau au XIXe siècle par des gens, et c'est à cette occasion-là que j'ai fait un petit peu d'histoire des sciences.
Histoire anciennes. Des sciences, histoire des langues parfois, avec des anecdotes quand même extrêmement savoureuses, puisque vous parlez de certains Indiens qui ne connaissaient pas les meubles et qui, lorsqu'ils ont découvert par exemple des chaises, se sont demandé dans quelle arborescence ils allaient justement placer, oui. Et ils les ont appelés des mammifères, parce que qu'ils ont quatre pieds.
Les chaises et les tables ont quatre pieds, donc comme ils avaient... Alors ce qu'il faut dire, c'est que ils avaient besoin de ça, les Indiens Tzeltal, c'est au nord du Mexique, mm-hmm. pas très loin de la frontière des États-Unis, ils avaient besoin de classer les mots qu'ils employaient, parce que quand on compte dans ces langues-là, ça n'est plus vrai maintenant à cause de l'influence de l'espagnol, mais c'était vrai à l'origine, il fallait dire de quelle catégorie c'était. On pouvait pas dire trois chiens, il fallait dire trois animaux chiens. Ça, si c'était en français, ça serait comme ça.
Parce que animal est donc la catégorie comprend voilà. La catégorie chien.
Les Africains francophones le comprendront très vite, parce qu'il y a beaucoup de langues africaines qui sont comme ça et qui classent les choses dans des catégories comme ça. Et ça s'appelle, en anglais, mais c'est eux qui ont le mieux étudié ça, les taxinomies populaires, c'est-à-dire que c'est une façon de classer les objets du monde pour les représenter par la langue.
Oui, ce qui est étonnant, c'est qu'on remarque ça de notre point de vue, alors qu'on pourrait inverser le point de vue et se dire, nos langues occidentales classent particulièrement peu, nous avons moins de classes, on a par exemple en français deux genres qui sont le masculin et le féminin, oui.
Qui sont arbitraires.
Exactement, qui sont arbitraires. C'est chaque fois une façon de regarder la langue de l'autre.
Ah, tout à fait. Et là, ce sont des langues qui finalement sont plus logiques que la nôtre. Bon, c'est une chose intéressante à noter, et c'est une chose qui est intéressante sur des tas de plans, pas seulement sur le plan du langage, mais sur le plan des façons de penser. Et quand on a un objet nouveau devant soi, l'idée de lui trouver une caractéristique qu'on trouve sympathique, en même temps, ça faisait des tables et des chaises, pour ces Indiens-là, des sortes d'êtres vivants. C'est-à-dire qu'ils étaient dans la même catégorie que les chiens et les chats, et que ça leur donnait une espèce de vie personnelle, et c'est formidable, parce que c'est en fait la démarche de la poésie.
Ben écoutez, merci beaucoup Alain Rey. La prochaine fois que je m'assiérai sur une chaise, je pensais que je m'assois sur un quadrupède. Merci pour ce beau livre que vous avez co-signé avec Fabienne Verdier, Polyphonie. Merci aussi pour ces 200 drôles de mots qui ont changé nos vies depuis 50 ans. Et merci enfin d'avoir été aujourd'hui, comme vous l'avez été pas mal par le passé, l'invité de la Danse des mots, une émission proposée par le réseau Canopé et par RFI, Lucie Bouteloup, Véronique Durand et Yvan. Écoutez la planète chanter.
Rappelle à ton souvenir.
Ay, maman, voilà le voyage.
Adrabe la cosa, dingue de
l'eau. Écoutez la planète chantée.
CIUT 89.5, Toronto.
What do the francophones want? Chaque dimanche, soyez de la fête avec Popourri Show sur CUT 89,5 FM. Écoutez les voix du monde sur votre fréquence. Des entretiens musclés, des rendez-vous littéraires, culturels. Quelles sont les valeurs de la francophonie? Quels sont les enjeux de la francophonie? Qui sont les francophones de la planète? Qui sont les francophones de Toronto, de l'Ontario, du Canada? Qu'en pensent les jeunes, les femmes, les LGBT, les immigrants? Ici Eric Adair.
Je vous invite à Popourri Show, le magazine phare sur CUT 89,7 FM. Chaque dimanche, de 11h à 13h, en partenariat avec le Centre de Recherche en Éducation Franco-Ontarienne de la Faculté d'Éducation de l'Université de Toronto, le Département d'Études Langagières Campus de Mississauga, la Chaire de Recherche du Canada en Études des Minorités à l'Université de Waterloo, les éditions Prises de Parole, Education Consulting Inc., Noir et Psy, Radio France Internationale, TV5 Monde, France 24. Écoutez, participez, devenez chroniqueur ou bénévole. Joignez-vous à l'équipe de Popourri Show en nous envoyant un message à popourri@cut.fm ou visitez notre site popourrishow.com. Popourri Show, plus de 34 ans déjà sur CUT 89,5. La radio comme je l'aime.
La poésie a ceci de merveilleux que sa beauté fait ressortir les profonds sentiments qui caractérisent l'être humain. Et en cette année de pandémie où les émotions sont mises à l'épreuve, c'est tout naturellement que le prix Édouard Monique s'approprie cette nouvelle réalité. Renaissance sera le thème de cette troisième édition.
Renaissance, libo, pluriel. Donc c'est un thème qui est ouvert, qui n'est pas lié seulement à l'actualité, parce que la poésie peut être en phase avec l'actualité, mais c'est aussi quelque chose qui est beaucoup plus vaste que ça. Et ça ouvre donc à toutes sortes d'interprétations, en fait.
Le concours de poésie est ouvert aux Mauriciens d'ici et d'ailleurs. Les envois sont attendus jusqu'au 11 décembre 2020. La remise du prix à la mi-2021 coïncidera avec le lancement du recueil des poésies primées lors des trois éditions depuis le lancement en 2016.
Nos efforts collectifs contribuent à arrêter la propagation de la COVID-19. Si vous vous inquiétez d'avoir été exposé au virus, faites faire une analyse. Respectez l'écart sanitaire et lavez-vous les mains fréquemment. Pour en savoir plus, consultez ontario.ca/nouveau-coronavirus.
Étant au Canada, à Montréal, ayant un peu de recul, on peut voir un peu mieux ce qui se passe à l'extérieur. On voit d'un autre œil et je trouve que ce regard un peu de l'extérieur rend la chose plus intéressante. Plus approfondi.
Il y a aussi nous. Nous qui luttons pour exprimer nos pensées. Nous qui luttons pour chercher le respect des autres. Nous qui ne fléchissons pas devant les remarques des autres, les jugements que l'on nous porte. Nous qui nous sommes défendus contre les abus physiques ou moraux. Nous qui avons surmonté les discriminations sexuelles, hommes, femmes, hétéros ou homosexuels. Nous qui avons vaincu un handicap ou une maladie. Nous qui élevons nos enfants, parfois seuls. Nous qui puisons en nous le courage, la force et la volonté pour changer, avancer et s'élever. Nous qui surmontons tous les jours des inégalités sociales. Nous qui devons lutter pour nourrir notre famille. Aujourd'hui, nous sommes 50 héros à être sortis de l'ombre. Nous sommes debout devant vous pour défendre les droits humains. La liberté d'expression, l'égalité des genres, pour combattre l'injustice et la violence. Nous voulons faire évoluer les mentalités et les comportements pour une société juste. Demain, soyons plus de 50 000 héros à rejoindre le mouvement et plus nombreux à Rise and Shine.
Avant de passer dans le monde merveilleux du 7e art, je vous rappelle que vous écoutez Popourri Show, votre magazine de la francophonie. Merci mille fois à tous ceux et celles qui ont réagi si généreusement à nos émissions spéciales lors du mois du créole et l'émission de dimanche dernier. Merci à Elisabeth Drapeau de Montréal. Elle est anthropologue avec une expertise dans la mise en valeur de la diversité culturelle en musique au Québec, Montréal. Elle est à la tête de la plateforme Tolatito Music. C'est grâce à elle que nous pouvons vous faire entendre, découvrir les richesses des talents émergents des musiques du monde, particulièrement la musique haïtienne. Elle apprécie particulièrement les thématiques et les débats de nos émissions. Elle sera, je l'espère, très prochainement à l'émission. Pandémie oblige, Ciné Franco se réinvente avec un nouveau partenaire de haut calibre, Hampton Securities.
l'un des principaux courtiers en valeur mobilière à service complet au Canada, offrant des services de gestion de patrimoine et de marché financier. Le festival grand public se déroulera en ligne du 20 au 28 novembre à la grandeur du Canada. En ces temps de reconfinement, temps difficile pour certains, Cinéfranco vous offre une fenêtre ouverte sur les pays francophones. Faites vite, achetez vos billets immédiatement en toute sécurité en visitant cinéfranco.com. Eh oui, ça fait longtemps que j'ai pas parlé à Madame Marceline. Comment se porte-t-elle en ces temps particuliers? D'où puise-t-elle son courage, son énergie? Quel est son secret pour tenir tête à cette pandémie? Allez, pouvez-vous, s'il vous plaît, me mettre en contact avec Marceline, s'il vous plaît? Bonjour, je pourrais parler à Madame Marceline, s'il vous plaît.
C'est moi-même.
Bonjour, ici Eric Adair de CUTFM. Est-ce que vous avez quelques minutes à m'accorder, s'il vous plaît?
Certainement.
Alors, long time, no see, comme on dit, nous vivons des temps assez particuliers.
Ah là là, oui.
Et malgré les défis et les difficultés de l'heure, je vois que vous avez toujours la flamme du cinéma. Vous êtes même maintenant à la fine pointe de la technologie. Alors, je vous rappelle que je suis actuellement en compagnie de collègues, des auditeurs de Rennes, de Paris, de Lyon, aussi de différentes villes de l'Afrique et des Antilles. Donc, tous ces gens sont là en train d'écouter notre entretien et je vous souhaite la bienvenue. Ça fait un petit bout de temps, hein?
Ça fait très longtemps et vous me manquez tellement. Mais comme vous l'avez bien dit, je me suis créé pendant cette pandémie beaucoup, beaucoup d'activités. Ouais. Donc, je suis très occupée et très heureuse d'ailleurs parce que mon temps est vraiment habité par le cinéma.
Alors, l'année 2020, une année qu'on ne va pas oublier si vite, une année pas comme les autres. Et les cinémas tournent au ralenti à travers le monde. Une très grande déception, très grosse frustration règne chez nos amis producteurs de films, gérants de salles de cinéma. Malgré tout, Marceline a trouvé le moyen, encore une fois, de relever le défi en ce temps de pandémie. Vous êtes très tenace et vous surpassez, bien sûr, encore une fois, toutes nos attentes. D'où puisiez-vous cette force? Quelle est votre potion magique?
Moi, je crois que c'est l'amour des cinéphiles, des francophiles, des francophones. J'aime partager. Et donc, c'est ça qui me fait tenir, en fait. C'est une sorte de communion que j'ai avec les francophones, les francophiles, les cinéphiles du cinéma. Et c'est ça qui me fait tenir, en fait.
Alors, du 20 au 28 novembre, Cinéfranco nous propose des drames, du rire, de l'héroïsme du Canada à la France, à via la Belgique, le Sénégal, le Maroc, le Rwanda, le Burundi, le Liban. Pourquoi c'est si important pour Cinéfranco de garder le tempo malgré cette crise sanitaire sans précédent? Et d'ailleurs, sans doute, cela compose des défis, n'est-ce pas?
Ça pose des défis et je crois qu'on a besoin de cette ouverture, de cette fenêtre vers le monde. Parce que quand on est confiné, donc ça veut bien dire confiné, un petit peu repli sur soi-même, on a besoin de tendre la main aux autres, de voir comment les autres vivent. Et c'est une façon aussi de s'identifier, c'est une façon de communier avec les autres.
Et cette année, vous êtes à la fine pointe de la technologie. Vous avez un nouveau partenaire, hein?
Ah oui, je dirais que c'est plus qu'un partenaire, en fait, c'est une plateforme, comme on dit, hein. Oui. Je suis un peu vieille, hein, donc j'ai du mal.
Mais
à
non, mais non, mais non, mais non, mais non,
mais
non.
Mais c'est une plateforme, Eventive, ouais, qui qui va justement ingérer les films et les projeter à toutes les tous les amateurs, tous les amoureux du cinéma.
Oui. Voilà. Du 20 au 28 novembre, j'ai hâte. C'est sûr qu'il va me manquer cette salle, vous voir sur la scène en train de parler directement et faire intervenir des cinéastes, des producteurs à vos côtés. Quel est le protocole justement pour s'inscrire? Parce que c'est une édition tout à fait spéciale.
C'est une édition tout à fait spéciale. Alors, voilà ce qu'il faut faire. D'abord, vous vous rendez au site de Ciné Franco, qui est www.cinefranco.com. Ensuite, vous allez voir un petit peu quels sont les films que l'on offre. Vous cliquez sur « Acheter vos billets » et ça vous mènera justement sur le site de Eventive. Et là, vous suivez les instructions.
Alors, un auditeur de Ouagadougou nous écrit, vous savez, on nous écoute de partout.
Wow,
hein.
Je suis tellement impressionnée.
Il veut savoir s'il peut avoir accès à votre site.
Hélas, oui, il peut avoir accès au site, mais pas au film. Ah. Parce que les films ne peuvent être vus qu'au Canada, sauf un qui s'appelle Québec Site et qui a été géobloqué pour l'Ontario.
Ah, mon Dieu, mon Dieu.
Oui.
Très dommage. Vous écoutez Popourri Show sur CUT 89,5 FM, notre invité aujourd'hui, une revenante, notre partenaire de toujours, Marceline, fondatrice, directrice artistique de Ciné Franco du 20 au 28 novembre. Ciné Franco innove et nous offre des cadeaux. 4 passeports de 5 films chacun. N'est-ce pas? Bon, merci beaucoup. On aura l'occasion. D'ailleurs, on passe en boucle hein, votre belle publicité que vous avez lancée sur Facebook. Bravo. Vous avez toujours une belle voix radiophonique.
Merci.
Alors, pandémie oblige, cette 23e édition déjà hein, de Ciné Franco se tiendra uniquement en ligne. Mais ça ne veut pas dire que les gens ne doivent pas s'abonner.
C'est-à-dire qu'il n'y a pas vraiment d'abonnement. Nous avons la possibilité d'avoir les adresses électroniques à travers les achats de films. Et bien sûr, on demande toujours la permission si on peut promouvoir nos films auprès des acheteurs de billets.
Oui, et aussi, il y a toujours cette question de confidentialité. Les gens ne sont pas toujours sûrs si c'est sécuritaire ou pas. Comment cela fonctionne? Et parlez-nous un petit peu des coûts des billets, justement.
Nous avons essayé de rester extrêmement raisonnable. Avant le 2 novembre, avant le 2 novembre, on a fait des prix très intéressants. Un passeport de 5 films, $30. Un passeport pour les 19 films, $110. Après le 2 novembre, nous avons augmenté un tout petit peu les prix. Donc, pour un passeport de 5 films, ce sera $40. Et pour un passeport de 19 films, ce sera $130. Nous voulons vraiment que les personnes qui aiment le cinéma, que les francophones, les francophiles, les allophones puissent avoir la chance de regarder ces films à la fois comiques, mais qui font penser d'ailleurs, hein, les films comiques, les films, les drames, etc. Nous avons obtenu des subventions et nous essayons d'être très, je dirais, on va faire très attention à nos sous et puis on demande aux gens finalement très peu d'argent pour essayer de compenser justement les coûts de la plateforme.
Est-ce qu'il va y avoir un moyen pour vous de détecter combien de personnes assistent à votre festival?
Oui, parce que en général, la plateforme va nous donner le nombre de vues, ça s'appelle le nombre de vues. Et d'ailleurs, dans les négociations avec les distributeurs, on nous a demandé de, par exemple, limiter certaines vues. Alors, par exemple, pour le film 1982 du Liban, on a le droit que de 500 vues. Tout simplement noir, on a le droit que 200 vues. Et je le recommande vraiment, c'est un film à la fois comique, qui fait un pied de nez au politiquement correct et qui parle justement de racisme de façon très intelligente.
Oui, ça c'est le samedi 26 novembre. C'est le film de clôture d'ailleurs, je pense. Hein.
C'est un des films de clôture. Et... On a décidé d'en avoir trois.
Ouais.
Donc Nadia Butterfly, qui était la sélection de Cannes, Au nom de la terre, d'Edouard Bergeon, qui est précédé justement d'un autre film, La clé du sol, de Nicolas Fay, et Tout simplement noir, de Jean-Pascal Zadi.
Oui, et ça tombe bien dans la réalité hein, qu'on vit en ce moment, les questions de diversité, un film qui a eu un grand succès en Europe, en France particulièrement, qui a ouvert aussi le débat, je dois dire, dans plusieurs médias sur la diversité. Tout simplement noir, une comédie sur le racisme qui a cantonné dans les salles en France l'été dernier, et maintenant nous avons le bonheur grâce à Marceline et Ciné Franco. Il y a aussi d'autres films que j'aime bien. Alors, vous avez beaucoup de films que j'aime, bien sûr, mais je vais juste attirer l'attention des éditeurs sur mes préférences. D'ailleurs, on aura l'occasion d'en parler chaque semaine. Une chose est sûre, vous avez parlé ici d'un film, Louis Godbout. C'est le film Mon Foster, un film en forme de thriller psychologique.
Oui.
Premier long métrage de Louis Godbout, ancien professeur de philosophie, n'est-ce pas?
Oui, oui. Mon Foster nous a conquis par la beauté à la fois des images, par la sensibilité de l'histoire et aussi surtout par l'opéra. Une musique et des voix extraordinaires. Oui.
Et un autre film que j'aime aussi, c'est L'intimité de De Gaulle. On rentre dans son intimité, hein, le film de Gabriel Le Baume.
C'est incroyable. De Gaulle, tel qu'on l'a jamais vu.
Oui, oui. Et aussi... un film qui tombe bien avec 25e anniversaire de référendum du Québec en 1995. Je me souviendrai toujours où j'étais à cette époque-là. Québexit, un film de Joshua Demers.
C'est exact.
C'est une comédie, hein.
C'est une comédie. Et encore une fois, c'est un petit peu comme Tout simplement noir. On rit beaucoup,
oui.
Mais au fond, quand on y pense... c'est pas du tout risible.
Ouais.
Hein, voilà.
Alors, c'est un film, comme je l'ai dit, qui tombe à point avec les 25 ans du référendum du Québec. Mais cette fois-ci, c'est un oléoduc interprovincial qui provoque un troisième référendum qui, cette fois-ci, mène à la souveraineté du Québec.
Mais oui, le Québec indépendant, comme dirait De Gaulle, hein, c'est ça.
Alors, donc, c'est uniquement disponible en Ontario, hein, ce film.
Hélas, oui, parce que c'est un film qui a beaucoup de succès et qui circule pas mal. Et je félicite Joshua Demers qui va nous accorder avec son équipe une conversation. Nous avons des conversations qui vont suivre quelques films, pas forcément avec les cinéastes. On espère quand même avoir Édouard Bergeon et Nicolas Fay, pour Au nom de la terre. On espère avoir Pascal Plante pour Nadia Butterfly. On espère avoir Touari Benzari pour Ta mère donc le film marocain.
Oui.
On espère avoir à la fois des spécialistes, des spécialistes de De Gaulle, par exemple, ou les réalisateurs, ou encore des gens qui sont des cinéphiles qui aimeraient parler de certains films. Alors, ce sont des conversations qu'on va pré-enregistrer, qu'on va mettre à la fin des films qui sont concernés, mais qu'on va également mettre au service de tous ceux qui voudraient une copie de ces enregistrements.
23e édition du Festival Ciné Franco qui vous revient en ligne, et c'est à travers le Canada, madame, monsieur, du 20 au 28 novembre. Et cette année, il n'y a pas d'excuses, n'est-ce pas? Parce que moi, j'ai fait une liste des avantages de regarder Ciné Franco de sa maison, c'est-à-dire de son salon, de son fauteuil, comme vous le voulez. Alors, je vais citer que 5 avantages que vous aurez, madame, monsieur, à regarder Ciné Franco cette année. C'est une année particulière. Première raison. J'ai pas à me mettre sur mes 36 ou me faire une beauté.
Mais vous êtes beau naturellement.
Ou avoir mes bigoudis. Deuxième avantage, j'aurais pas à subir le parfum, l'eau de Cologne, le déodorant des autres. Troisième avantage, je peux participer pleinement au festival de ciné franco en pyjama ou en maillot de bain. Quatrième avantage, je peux choisir les snacks, les boissons de mon choix sans me soucier des regards des autres. Et cinquième avantage, s'il y a une tempête de neige ou pas, j'ai pas d'excuse pour ne pas aller au cinéma.
C'est vrai, ça.
Allez tout de suite, allez faites vite madame, monsieur, et sur le site de Cinéfranco, cinéfranco.com, et si vous répondez correctement à nos questions de ce dimanche, vous aurez droit à 4 passeports de 5 films, chacun disponible, gracieuseté de Cinéfranco, et donc on vous enverra les noms des gagnants. Alors ces films seront disponibles pendant toute la durée du festival. Hein?
C'est exact. On les sort deux par jour, en quelque sorte, à partir de 10h du matin, mais vous pouvez les voir quand vous voulez, donc ça sera une... C'était quoi, votre sixième raison, hein? C'est que vous pouvez voir vos films la nuit, si vous avez des insomnies, il n'y a pas de problème.
Oui.
Ciné Franco est là pour vous. Mais il sera là pour vous faire rire, justement, ou pour vous faire pleurer, ou pour vous faire oublier, en fait, la réalité qui vous entoure.
Vous savez, c'est un remontant.
Bonjour, bon cinéma à tous.
Oui.
Et merci de nous faire la grande faveur de voir les films qu'on a choisis pour vous. Et ce choix, et en fait ce festival, c'est un geste d'amour vraiment vers tous les amoureux du cinéma.
Oui, vous aurez pu tout laisser tomber, mais vous avez préféré nous donner un petit remontant.
Voilà.
En cette période un peu difficile. Alors, pandémie oblige, 23e édition de Ciné Franco qui se tiendra uniquement en ligne cette année sera disponible à travers le Canada. Pour tout savoir, visitez le site www.cinéfranco.com. C'est en partenariat avec Hampton Securities. Vous avez déniché vraiment un très beau partenaire. Hein? Bravo.
Généreux vraiment généreux. Et puis, c'est grâce à eux qu'on a... On a pu aussi, et bien sûr à tous nos autres commanditaires, je ne veux pas tous les nommer parce que j'ai peur d'en perdre, mais vraiment, on les remercie du fond du cœur.
Au nom de toute l'équipe, de nos auditeurs, je vous remercie infiniment pour votre engagement, votre dévouement. Merci pour cette belle programmation et j'espère que les gens seront nombreux au rendez-vous. Pour plus d'infos, cinéfranco.com ou popourichaud.com. Mot de Cambronne, bonne chance et que la force soit avec vous, Marcel.
Merci Eric, merci Popourri, vous êtes toujours dans mon cœur, merci.
Au revoir.
Au revoir.
Et oui, mesdames, messieurs, nous sommes arrivés à la fin de notre voyage virtuel. Je tiens à remercier chaleureusement Madame Fabienne Collat, fondatrice de la Fondation Fabienne Collat à Montréal. Et je vous souhaite tous les succès possibles avec Téléfilm Canada et ses jeunes réalisateurs cinéastes noirs en herbe. Allez, je vous invite à visiter notre site popourichaud.com pour avoir toutes les infos nécessaires. Merci à notre cher ami et partenaire de toujours, Marcel Lynn. Visitez le site de Cinéfranco, cinéfranco.com. Et je vous rappelle que vous avez des passeports de 5 billets chaque disponibles pour les fidèles auditeurs de notre émission. Merci à Yvan Amar, à RFI, notre correspondant spécial, Maître Peter Biraud. Merci beaucoup d'avoir été là. DJ Devera pour le montage et le mixage. Vous souhaitez participer à nos émissions ou faire un don, ou nous prêter votre voix en nous envoyant un enregistrement, partagez en 2 minutes ou 3 minutes votre avis sur notre émission et CUTFM. Allez, faites vite, envoyez-nous un message à popourri@cut.fm. Pour terminer en beauté, je vous invite à un petit dépaysement en direction Montréal. Malgré la pandémie, le 42e gala de la disque s'est tenu dimanche dernier,
Fêter la musique québécoise malgré la pandémie n'est pas une mince affaire. Ils ont pris des grands moyens, et oui, ils ont dû placer des artistes sur les toits des immeubles de Montréal afin d'avoir le minimum de gens dans la salle de spectacle. Une quinzaine d'artistes se sont produits pendant la soirée et nous avons choisi deux gagnants qui ont remporté des Félix pour terminer cette émission. Les Cowboys Fringants et Robert Charlebois. En plus d'être désignés groupe de l'année, les Cowboys Fringants, groupe très connu en France, même jusqu'en Bretagne, croyez-le ou pas. Et oui, ils ont vu leur titre « L'Amérique pleure » être sacré meilleure chanson de l'année. Et par la suite, vous entendrez un concert de Robert Charlebois. Il a décroché le Félix du spectacle de l'année, auteur, compositeur, interprète pour Robert en Charlebois Scope. Eh oui, bon spectacle, prenez soin de vous et de vos proches. Je vous souhaite un bon dimanche, bonne semaine et que la force soit avec vous. Thank you.
Je suis un homme de bonne famille. Et quand je fonce vers la lune, c'est bien assis en Volkswagen avec ma brune. J'en ai trop peur sur un chopper. Avec Aline pour but sa fine, avec Thérèse, Franz contre Nice, mon peur ça vient. Si j'avais les ailes d'un ange, je partirais pour. Si j'avais des lumières sur mon bike, je partirais pour.